Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Podcast is a new radio.
Bon matin! Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf? Bah, pas grand chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabanon de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Une province qui fait bloc. Alors tout d'abord, quelques éléments de contexte. Il y a quelques jours à peine, se sont déroulées les élections fédérales du Canada. Alors à l'image des élections législatives en France, il s'agit d'élire les députés de chaque circonscription. Ici, on parlera plutôt de comté. Et ses députés permettant ensuite de choisir un Premier ministre qui nommera le gouvernement. Du Canada, évidemment. À quelques exceptions près, les députés sortants ont été reconduits, le nouveau Parlement est une quasi-photographie parfaite de ce qu'il était avant. Alors ainsi, pour terminer la mise en contexte, Justin Trudeau est reconduit comme Premier ministre du Canada, et il est actuellement en train de bâtir son gouvernement. C'était pour le contexte. Et c'était donc des élections nationales du Canada, où tous les partis, même s'ils sillonnaient les provinces et localisaient évidemment leurs promesses pour essayer d'obtenir le plus de voix, tous les partis se devaient de donner leur vision du Canada. Tous ? Pas tout à fait. Il y a une singularité, et cette singularité, c'est le Bloc québécois. C'est un parti à part sur l'échiquier national. Et pour cause, il n'est présent qu'au Québec. Ne cherchez pas le candidat du Bloc québécois en Colombie-Britannique. Il n'y en a pas. Et ce qui est dingue, ce qui est même presque hallucinant, c'est que malgré cette présence réduite très parcellaire à une seule province, le Bloc québécois est aujourd'hui la troisième force politique au Parlement du Canada. Cela en dit long sur ce qu'est la société québécoise aujourd'hui. D'ailleurs, à plusieurs reprises, notamment dans l'épisode Code Québec qu'on avait fait avec Jean-Marc Léger il y a quelques mois maintenant, nous avions parlé du schisme existant entre d'un côté le Québec et de l'autre le ROC. Le reste of Canada. Alors, pour comprendre les enjeux qui se cachent derrière ce schisme entre le Bloc et le ROC, j'ai invité Alain Thérien, qui est leader parlementaire du Bloc québécois depuis son élection de 2019 et qui vient d'être brillamment réélu dans le comté de La Prairie, qui se trouve accessoirement être aussi mon comté. Bonjour, Monsieur Thérien.
Bonjour, comment allez-vous?
Je vais excellemment bien et je me dois de commencer cette émission en vous félicitant. Bravo pour votre élection.
Merci. On a travaillé très fort et puis on a mené une campagne positive et on a obtenu des très bons résultats. J'ai augmenté ma majorité. Ben, je dis « j'ai », mais on a augmenté notre majorité parce qu'on est une équipe. Alors, je suis très, très content et je suis très content de jaser à un de mes électeurs. Je ne sais pas si vous avez pas voté, vous n'êtes pas encore...
Mais non, j'ai pas encore voté, donc mais j'ai observé, mais c'était très, très intéressant pour moi de voir. Alors, je sais que vous avez toqué à beaucoup de portes, vous n'avez pas toqué à la mienne, mais en même temps, vous ne pouviez pas toquer.
Oui, c'est ça, mais j'en ai fait 4000 et 4000, un petit peu plus que 4000, je dis 4000 pour être sûr, là, d'au moins 4000, puis c'est à peu près 10% du comté. C'est beaucoup, là, quand même.
Ah oui, c'est quand même énorme.
Mais, tu sais, les chances sont quand même assez faibles que j'aie été chez vous, mais peut-être la prochaine fois, parce que j'en fais beaucoup. Et j'essaie de pas tout le temps revenir aux mêmes places.
Ça sera avec plaisir. En tout cas, c'est vrai que moi, j'ai observé ça de manière vraiment très, très, très curieuse, parce que j'avais déjà fait, il y a quelques mois, une émission sur la politique québécoise avec Jean-Charles Panton, qui a écrit un bouquin dessus. Et je crois qu'en première instruction, je lui avais dit, moi qui m'intéresse beaucoup à la politique depuis très longtemps, parce que je trouve que la politique a quelque chose de particulièrement noble, quand elle est faite de manière noble, j'arrive ici au Québec et j'étais un peu perdu, je ne savais pas trop pour qui je voterais si je devais voter. Donc là, je me suis dit, je vais me servir de cette campagne pour voir un petit peu. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous avoir, parce que pour moi, le Bloc québécois, c'était une surprise par ce particularisme dingue. Le Bloc québécois n'est présent qu'au Québec. Globalement, vous allez me dire si je me trompe, mais ne parle que du Québec. Et pourtant, nationalement, sur tout le Canada, aujourd'hui avec 33 députés. Alors, je crois qu'il y a un recomptage en cours qui est un peu problématique, mais 33 députés, vous êtes la troisième force politique dans tout le Canada. Il y a le parti fédéraliste, qui est de Justin Trudeau, il y a les conservateurs qui sont derrière. Derrière le Bloc québécois.
Absolument. On est très fiers de ça, oui, en effet.
Ah ben, et, quoi?
Oui, et puis, tu sais, tantôt, vous disiez le reste du Canada et le Québec. Ben, nous, on ne parle pas du reste du Canada. On parle du Canada. Parce que si on dit le reste du Canada, c'est en supposant que nous sommes dans le Canada. Alors, le Bloc québécois, nous, on se dit, ben, le Québec, c'est pas le Canada. Alors, c'est le Québec et le Canada. Malheureusement, pour un petit bout de temps encore, trop long, j'y mets pour moi, mais on est techniquement dans ce qu'on appelle le Canada, mais le Bloc québécois ne parle que des Québécois et ne parle que pour les Québécois. Et je pense que c'est beaucoup ce qui fait que le Québec s'est attaché au parti politique du Bloc québécois, parce que historiquement, là, si on monte assez loin, avant la création du Bloc québécois, souvent les Québécois votaient pour des partis de façon très, très, très forte. Comme par exemple Trudeau, le Parti libéral, Trudeau père, en 80, il y avait eu 74 députés sur 75 du Québec qui avaient voté pour le Parti libéral, et ça n'avait pas empêché Pierre-Éliott Trudeau de rapatrier la Constitution et de créer la Constitution de 82 sans l'accord du Québec. Et c'est toutes ces gifles consécutives qu'on a données au Québec de la part d'un gouvernement qui était souvent appuyé par les Québécois, que les Québécois se sont dit, c'est assez, tant qu'à appuyer un gouvernement ou un parti qui, après, nous gifle dans le visage, ben nous, on n'achète plus ça. On n'est pas défendu correctement par un parti dit national. On a, là, les gens vont dire, oui, mais vous étiez au gouvernement. T'sais, parce que c'est sûr que quand tu élis des députés qui forment le gouvernement, on a souvent l'impression d'un pouvoir accru pour une province ou pour le Québec, ben, ce qui n'est pas le cas. On n'a jamais été aussi mal défendu par un parti qui était souvent, qui faisait le plein des votes québécois. Alors, c'est comme si on nous prenait un peu pour acquis. Et puis, à ce moment-là, ben, on se permettait de nous écraser et de ne pas aller dans le sens de nos intérêts. Et évidemment, historiquement, avec le Lac Meech, l'échec du Lac Meech, qui était très prometteur pour beaucoup de Québécois. Le Lac Meech en 90, ben, l'échec du Lac Meech en 90. Et à ce moment-là, on voulait réparer la, comment je pourrais dire ça, réparer la honte de 82 qui avait créé une constitution sans l'accord du Québec. On voulait entrer le Québec dans la constitution de 82 et on appelait ça l'entente du lac Meech et elle a avorté en 90 et c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé le Bloc québécois et les Québécois se sont dit ça suffit, nous on a besoin d'un outil bien à nous qui va défendre seulement nos intérêts et ce sans compromis. Et c'est pas mal ce qui fait que le Bloc en 31 ans, à 30 ans ou 31 ans d'existence continue à être très fort et faire des gains pour le Québec et parler à Ottawa et défendre les intérêts du Québec. Vous savez, moi je suis leader en chambre. Et quand je parle le lundi matin, parce que je siège du lundi matin au jeudi après-midi, mon mandat est simple, c'est de défendre les intérêts des Québécois. Alors, on a la tête bien alignée là-dessus, et ce qui fait qu'on est extrêmement efficace dans nos interventions.
Alors, justement, je vais y revenir. Mais
J'ai parlé beaucoup, mais je suis désolé.
Non, mais c'est super. Je suis là pour écouter, moi. C'est le but de la manœuvre. Et je pense que ceux qui m'écoutent, qui écoutent l'émission aussi. Juste une précision. Justin Trudeau, qui représente donc le Parti fédéraliste, il est québécois. C'est un élu aussi de Montréal, je crois, hein, ce quartier de Papineau.
Oui, la ville de Montréal.
Quartier de Papineau. Et aujourd'hui, si je regarde la carte électorale, alors juste du Québec, c'est grosso modo la moitié des comtés qui vont pour le Parti fédéraliste de Justin Trudeau, mais l'autre moitié, c'est pour le Bloc québécois. Donc, on parlait tout à l'heure d'une période pas si lointaine où c'était 74 sur 75 pour le fédéralisme. Et là, il y a eu un rééquilibrage complet sur la seule province du Québec, alors même que le leader du parti fédéraliste est québécois, ce qui, j'imagine, joue quand même un petit peu encore dans le...
Ben écoutez, les Québécois savent reconnaître les gens qui n'ont pas les intérêts du Québec à cœur. Les pires politiciens qui ont siégé à Ottawa pour les Québécois, ça, la plupart du temps, était des Québécois. J'exclus Brian Mulroney là-dedans. Mais quand on regarde Pierre-Éliott Trudeau, qui là, on a appris là quelques mois que Pierre-Éliott Trudeau, après la victoire du Parti québécois sur la scène québécoise en 1976, avait demandé qu'on assèche économiquement le Québec pour les punir de leur choix. Et ça, c'est un Québécois, Pierre-Éliott Trudeau. Et donc, il avait donné le mandat à des gens autour de lui qui avaient un pouvoir économique et politique considérable de tout faire pour punir le Québec de leur décision d'appuyer un gouvernement souverainiste. Et quand on regarde Jean Chrétien, c'était aussi un des pires face aux volontés d'expansion, aux volontés de reconnaissance du Québec face à l'autodétermination, ça a été un des pires. Et Justin Trudeau est de ce calibre-là. Justin Trudeau n'a pas des positions qui sont favorables à la survie et à la reconnaissance du peuple québécois comme il est. Et donc, les Québécois sont habitués de voir des politiciens québécois qui vont travailler contre les aspirations du Québec. Chez nous, c'est une habitude de voir ce type d'individu-là. Alors voilà, fait que c'est pas étonnant que le Bloc québécois résiste au fait que le premier ministre soit techniquement un Québécois, mais il était longtemps en Colombie-Britannique, et bon. Alors, c'est ça. Même si c'est un premier ministre québécois, on le dit, ben ça n'empêche pas qu'il est extrêmement peu reconnaissant envers les Québécois, et ça, les Québécois le savent.
Donc, le Bloc québécois, une force majeure au Québec, absente dans les autres provinces de fait, mais ceci dit, donc troisième force représentée au Parlement du Canada. J'imagine que j'aimerais bien juste comprendre comment ça se passe au niveau au Parlement du Canada, parce que évidemment la plupart des sujets que vous avez à débattre, à traiter, ce sont des sujets pan-canadiens.
Mais vous avez raison, ouais. On aurait tendance à penser ça, mais d'abord vous dire que là, on est dans un gouvernement minoritaire. Alors, le gouvernement fédéral est obligé de se trouver un allié parmi l'opposition. Actuellement, il y a trois oppositions qui vont lui permettre d'obtenir une majorité. Il y a le Parti conservateur, mais tous savent bien que le Parti conservateur et les libéraux, c'est chien et chat, ils ne s'entendent que très rarement. Et il y a le NPD, de l'autre bout du spectre, le NPD qui est un parti très à gauche, très dépensier, très multiculturaliste. Et donc, il s'est un allié intéressant pour le Parti libéral, mais souvent, pour X raisons, ils s'entendent pas. Puis bon, je veux pas faire tout le détail de des stratégies qui les séparent des fois, mais il reste le Bloc québécois. Et moi, nous, étant donné qu'on peut pas former le gouvernement, alors notre perspective est simple, on est une opposition constructive. On n'est pas là pour dire toujours que le gouvernement est mauvais, parce que notre but, c'est pas de le remplacer. Notre but, c'est de protéger les intérêts des Québécois. Alors, moi, quand je vais rencontrer, je suis leader en chambre, quand je rencontre le leader du gouvernement, ben j'y dis toujours, si c'est bon pour le Québec, c'est bon pour le Bloc. Et des fois, ils font des politiques qui vont justement dans le sens des intérêts du Québec. Ça arrive. Ben nous, on est d'accord avec eux, on les appuie. Par contre, quand ils font des choses qui ne vont pas dans le sens des intérêts des Québécois, ben à ce moment-là, on va dire quoi? Ben, on va dire, écoutez, nous, on veut des corrections majeures ou sinon, on va voter contre. Et le fait que ce soit minoritaire, ben ça nous donne beaucoup de pouvoir et on a réussi à avoir plein de gains à cause de ça. Ça, c'est juste vous expliquer un peu là comment fonctionne le Parlement dans un cas de gouvernement minoritaire et pourquoi le Bloc québécois peut en profiter pour soutirer des gains intéressants pour le Québec. À votre question, à savoir, bon, mettons, ça, il va arithmétiquement. Tu dis que le Québec, c'est à peu près 22 % de la population canadienne. Alors, il y a sûrement beaucoup de dossiers qui ne toucheraient pas au Québec et qui va toucher les autres provinces. À ce moment-là, comment réagit le Bloc québécois? Mais c'est très rare que ça arrive, je vous dirais. La plupart des sujets touchent l'ensemble du Canada et le Québec, la plupart du temps. Mais s'il arrive, parce que ça peut arriver, qu'il y a des sujets qui ne touchent pas le Québec. Par exemple, à un moment donné, on parlait du saumon du Pacifique. On est très loin du Pacifique.
A priori, oui, c'est pas pour nous, ça.
Exact. Ben nous, à ce moment-là, on s'abstient du débat. On laisse aller les Canadiens gérer les problèmes canadiens. Ça, on est très respectueux envers le Canada quand il s'agit de régler leurs propres problèmes. Du moment que ça ne va pas avoir d'influence sur notre quotidien à nous. Alors, quand on voit qu'il arrive des situations où que le Canada a à gérer des situations qui ne nous touchent pas, ben à ce moment-là, on va laisser faire. Mais faites attention à ça. Par exemple, quand le gouvernement canadien décide de subventionner les sables bitumineux puis le pétrole, même si ça touche pas le Québec directement parce qu'on n'a pas de pétrole, ben ça nous touche parce que l'argent qu'on donne, et là, je vous vois sourire et vous avez compris, que nous, on va dire, ben on veut pas donner d'argent au fédéral pour qu'ensuite, il arrive avec des politiques qui vont simplement empirer la situation climatique mondiale. Ça, on est contre ça. Et donc, quand on fait des interventions ailleurs au Canada, mais qui a une influence sur les deniers publics et par conséquent l'argent qu'on donne à Ottawa, ben là, à ce moment-là, on va réagir et on va s'opposer si on considère que ce n'est pas bon pour les intérêts du Québec. Et le Québec, au Canada, est probablement, je vous dis ça, probablement la province où, bon, on peut pas dire que le Québec est une province, le Québec est la société la plus verte au Canada, d'après moi. Je peux me tromper peut-être, là, mais il me semble que c'est assez clair qu'on est beaucoup plus écologique que le reste du Canada. Et donc, on est plus porté là-dessus et on défend davantage la lutte au changement climatique. Alors, ça a une influence dans notre perspective, même si ça touche pas directement le Québec. Vous avez deviné de quoi je parle. Je vous dirais que comme leader en chambre, c'est pas arrivé souvent qu'on s'est auto-exclu d'un débat qui ne touchait vraiment pas notre juridiction ou nos intérêts à nous.
OK, très clair. Vous défendez les intérêts du Québec et clairement, vous aussi comprendre ce à quoi je fais référence, vous n'hésitez pas à montrer les dents, voire à vous fâcher tout rouge quand on commence à maltraiter ce qui vous semble important au Québec. Et je pense à ce qui s'est passé lors du débat anglophone, voilà, où le leader du Bloc québécois, Pierre-Yves Blanchet, Yves-François Blanchet a été interrogé par la modératrice, dont je répète que les questions qu'elle formulait avaient été écrites par un groupe d'experts.
Un consortium qui avait la... Ouais.
Reste qu'on l'a interrogé, Yves-François Blanchet, sur les lois concernant la laïcité, notamment au Québec, en les présentant comme étant des lois discriminatoires.
Et racistes.
Et là, c'est évidemment, il y a une levée de bouclier, alors seulement de Yves-François Blanchet sur le moment.
Mais oui.
C'est lui qui était interrogé, certes, mais Personne d'autre n'a bronché.
C'est drôle que le premier ministre qui se dit québécois n'a pas réagi du tout, alors que les Québécois se sont fait traiter de racistes. Le seul à avoir réagi, c'est Yves-François Blanchette. Ils ont réagi le lendemain.
Le lendemain, alors tous, oh, ouais, effectivement, quand ils ont vu ce que ça faisait au Québec, on les a tous vus réagir et sortir un petit peu des fumigènes en expliquant « bah ouais, mais je pouvais pas réagir parce que ouais, je voulais pas passer la dynamique ».
Vous savez, les parties de hockey, souvent, ils sont très, très, très rudes. Alors, c'est comme si un de tes collègues mange un cross-check, un coup de bâton dans le dos de notre équipe et il y a une personne qui va le défendre seulement, mais après la partie dans la chambre, il y a 3-4 personnes qui crie au scandale puis qui crie que c'était épouvantable, mais durant la partie, ben il était absent complètement. Ils ont jamais défendu leurs collègues. C'est un peu ce qui s'est passé. Alors, vous savez, ça c'est au moins on est habitué au Bloc québécois de ces jeux qui sont faits par des acteurs qui n'ont aucun intérêt pour le Québec à part pour avoir leur vote. Parce que quand c'est en anglais, ils ont un discours, et quand c'est en français, ils ont un autre discours. Hein? Donc, et là, mais ce qui est pire dans cette histoire-là, c'est que quand c'est en anglais, c'est souvent payant de faire du Québec bashing. Et donc, ces gens-là vont pas défendre le Québec parce qu'ils parlent en anglais, comme vous l'avez dit tantôt, au reste du Canada. Alors, ils parlent en anglais au Canada et ils savent que les Canadiens aiment ça faire du Québec bashing. Et que plus ils font du Québec bashing et plus ils montent leurs intentions de vote dans le Canada. Alors, c'est sûr qu'ils n'allaient pas défendre les Québécois dans cette histoire-là parce que c'était en anglais et que ça les payait. Si vous voulez faire monter des votes au reste du Canada ou au Canada, vous parlez contre le Québec. Vous les traitez de racistes. Moi, l'année passée, en chambre, je me suis fait traiter de raciste par le chef du NPD. C'est jamais excusé. Mais imaginez... Alors que c'était sans aucune raison, il m'avait traité de raciste, ben, il était capable d'aller chercher je sais pas combien de millions en financement dans le reste du Canada, et c'était le Stand for Singh. Alors, tout le monde était content qu'il m'ait traité de raciste parce que j'étais un Québécois, puis de facto, j'étais raciste. Alors, même s'il avait aucune raison de le faire, il s'est jamais excusé, parce que si c'était excusé, à ce moment-là, le reste du Canada n'aurait pas été content contre lui. Alors, c'est extrêmement payant au Canada, de faire de la politique en cassant du sucre sur le dos du Québec. Alors, c'est évident qu'ils se sont pas portés à la défense du Québec.
Ouais, c'est pas la première fois qu'on parle du Québec bashing, mais moi, c'était un peu, cette fois, ce débat-là, c'était à peu près la première fois que je le voyais pour de vrai. Et j'ai bien vu, effectivement, ce que vous disiez, à savoir que tant qu'on utilisait la langue de Shakespeare, ça posait aucun problème, et dès que le lendemain on est repassé en français, oh là 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 là, c'était infâme. C'était la première fois que je l'observais, mais j'arrive pas encore à comprendre d'où est-ce que ça vient. Pourquoi est-ce que tout le reste du Canada se plaît à faire du Québec bashing? Est-ce que la langue est vraiment le point de cristallisation qui génère ça?
Ben, moi je pense que oui. Écoutez, on était conquis en 1759, quand on a perdu Québec, et tous les anglophones qui foulaient le sol de l'Amérique du Nord voyaient la fin de la présence francophone en Amérique du Nord. C'était comme une évidence. On avait perdu, alors on devait s'assimiler. Et pour X raisons, écoutez, je ne ferai pas l'histoire avec vous, mais pour X raisons, on a résisté et on a continué à parler français. Et ça les a toujours embêtés, parce que dans leur idée, on ne méritait pas d'exister. Et quand il y aura la révolte des Patriotes en 1837-38, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, les Patriotes au Québec vont demander, entre autres, un gouvernement responsable, et vont demander qu'on reconnaisse la nation québécoise. Et il y a même un des chefs patriotes qui va déclarer l'indépendance du Bas-Canada de l'époque, qui est le Québec aujourd'hui. Et ils vont demander, la reine va demander à Lord Durham de trouver des solutions pour régler le problème au Canada à l'époque. Et la solution qu'il va amener, c'est, il va dire, les francophones, le Bas-Canada, les Canadiens français qu'on nous appelait à l'époque, c'est un peuple sans histoire et sans culture. Alors, pour leur salut, ils doivent être assimilés. Alors, on est un caillou dans la botte. On résiste à coup de berceau au 19e siècle. On a résisté. On a été dans le monde les familles avec le plus d'enfants. 14, 15 enfants, 18, 20. Alors, on a résisté à la pression économique qu'on nous affligeait en ayant une augmentation de notre démographie. Ils n'ont jamais été capables de nous mettre à notre place. Et on a toujours été une anomalie qui était censée être temporaire, qui est devenue permanente. Et là, ben, écoutez, le Canada est un pays bilingue, sauf que le reste du Canada, quand on voit comment ils traitent les minorités francophones, ben, ça montre à quel point ils ont peu de respect pour le fait francophone en Amérique du Nord et dans leur pays au Canada. Et ça montre à quel point la seule chose qui nous permet de survivre au Québec, le français au Québec, c'est d'avoir un État qui nous protège. Et c'est ce que ces gens-là n'aiment pas. C'est que le gouvernement québécois, l'État québécois, sachant la menace démographique, économique, historique et politique qui afflige les francophones du Québec, ben que l'État québécois soit obligé d'utiliser de la législation pour défendre ces francophones-là. Et sans cela, ben moi je pense que le combat à moyen long terme va être perdu. C'est qu'il y aura une assimilation des francophones au Québec. Et c'est ça que ces gens-là n'aiment pas. C'est qu'on utilise l'État québécois pour protéger pour protéger le fait qu'on est une nation avec seule langue commune, le français.
8 millions d'habitants sur un territoire de 360 millions d'anglophones, c'est le petit village d'Astérix.
Ben vous savez, vous avez déjà entendu, j'invite vos auditeurs à écouter La langue de chez nous, d'Yves Dutheil.
Ah oui.
Il parle de nous. Il parle de Félix Leclerc. Quand il parle de l'hirondelle au printemps des musiques, qui va vous voir, ben ça c'est Félix Leclerc, qui va vous voir et qui vous dit, à quelque part en Amérique du Nord, il y a un peuple qui est frère au vôtre et qu'on est cousin, qui parle encore français. Ben ça, c'est exceptionnel. Ce qu'on a réussi à faire, c'est exceptionnel d'avoir résisté à un flot anglophone, une marée anglophone, pendant 250 ans, alors qu'en 1759, les Français, et là, je vous accuse pas de quoi que ce soit, vous n'étiez pas là, moi non plus.
J'étais pas là, moi.
Non, c'est pas moi non plus.
J'étais plus en projet.
Vous savez que quand on a perdu... L'élite française, les notables français ont tous quitté. Ce qui est resté au Québec, c'est les Canadiens, les agriculteurs, les gens qui étaient peu éduqués, qui avaient, tu sais, on n'avait pas beaucoup de culture à l'époque. Alors, c'est ces gens-là qui ont formé le Québec d'aujourd'hui. Alors, peu de gens considéraient que ce peuple-là, qui était extrêmement fragile, résisterait contre vents et marées anglophones à aujourd'hui, comme dit le poète, a imposé le français jusque dans ses collèges. Puis moi, quand j'enseignais, je disais à mes étudiants, vous vous imaginez à quel point on peut être fier aujourd'hui de se tenir encore debout, fatigué, mais debout, et de parler encore français, la langue de notre mère patrie. Mais c'est extraordinaire ce qu'on a accompli. Et moi, je suis très fier de ça, et c'est pour ça que je vais à Ottawa. Je vais à Ottawa pour défendre ce peuple-là qui mérite d'être défendu, qui mérite d'avoir un meilleur sort et qui mérite de s'épanouir, qui mérite son autodétermination et, comme dit Charles de Gaulle, qui mérite vivre le Québec libre, qui mérite son indépendance. Et je me bats depuis que je suis jeune parce que j'y crois fondamentalement et que j'aime ma nation. Elle n'est pas meilleure que les autres, mais c'est ma nation. On n'est pas meilleur ou pire, on est juste différent. Et quand je suis au Parlement à Ottawa, moi, quand je parle de mon pays, je parle toujours du Québec. Et les autres députés, des fois, réagissent drôlement, mais je leur dis, on n'est pas meilleur que vous autres, on n'est pas pire, on est juste différent. Et à force de leur expliquer, leur dire, ben, coudonc, il y en a qui comprennent ça.
Le bilinguisme,
ouais.
Ça pourrait marcher ou pas?
Non. Le bilinguisme au Québec, c'est de laisser tranquillement l'anglais devenir dominant. C'est tranquillement faire mourir le français au Québec. On ne peut pas faire ça. Et là, je parle de bilinguisme institutionnel. Si vous me dites que vous êtes bilingue, bravo, vous êtes trilingue, encore mieux. Vous êtes polyglotte, ben mon Dieu Seigneur, le bon Dieu pour vous. Bon. Mais je veux dire, quand on parle de bilinguisme institutionnel au Québec, c'est que l'anglais est tellement puissant et tellement déjà présent que de dire, ben chez nous, ça sera le français ou anglais, ça sera la fin du français. On peut pas faire ça au Québec. Le Québec, notre langue de travail doit être le français. On a le droit de vivre, s'épanouir et mourir en français. On a le droit de tout faire ce qu'on a à faire à l'intérieur de nos frontières en français. On a le droit de se faire soigner en français. On a le droit d'aller à l'école en français. On a le droit de se faire servir en français. On a le droit de travailler en français. Et c'est pas juste le droit.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Il faut que ce soit en français. Si on ne fait pas ça, si on introduit le bilinguisme, ça sera la fin du français au Québec.
Ce que j'ai vu en regardant l'actualité ces derniers mois, depuis que je suis arrivé au Québec, c'est que ce que vous dites là, sur le côté hégémonique naturel de l'anglais, du fait de sa puissance, hein, c'est pas forcément qu'il veut conquérir le territoire, c'est juste que, on le disait, hein, 360 millions versus 8, et puis accessoirement perçu dans le monde entier comme étant la langue internationale de référence. Ce côté hégémonique qui est tentaculaire, c'est un peu ce qui se passe sur Montréal.
Absolument, oui.
Là, on a vraiment, deux Québec. Il y a Montréal et puis il y a le reste du Québec qui est très, très, très majoritairement francophone.
Absolument.
Mais c'est vrai que quand on va à Montréal, qu'on rentre dans un restaurant, qu'on va dans une boutique, en général, on parle d'abord en anglais. Et moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Alors, je parle la langue de Shakespeare à peu près, j'ai la baragouine, donc je m'en débrouille. Mais j'ai déjà trouvé des gens qui, lorsque je répondais en français, je sentais que ça tirait l'oreille et qu'il fallait que je repasse en langue de Shakespeare parce que visiblement...
Absolument. Et là, ce que vous me dites, c'est malheureusement une réalité, malgré le fait que le Québec soit un État avec une langue commune, le français, depuis 1977 avec la loi 101 de René Lévesque. Imaginez ce que ça serait si on n'avait pas créé cette loi-là. Imaginez. Tu sais, quand vous m'avez demandé tantôt pourquoi pas le bilinguisme, imaginez, vous constatez l'état des dégâts actuellement par rapport à l'utilisation du français dans la métropole québécoise. Imaginez si on n'avait pas eu cette loi-là. Puis malheureusement, cette loi-là a été effilochée beaucoup dans le temps par des pressions constantes de la part du reste du Canada ou de la part de certains intervenants au Québec qui ont essayé de la rendre plus stérile comme loi. Et là, c'est pour ça que le gouvernement en place, le gouvernement de François Legault, parle de la renforcer, mais il faut aller au-delà, il faut la renforcer davantage et il faut aussi que le message soit clair, que les gens qui arrivent au Québec, bon, vous êtes un immigrant, si on veut, très content de vous accueillir avec nous.
Merci.
Parler français, c'est génial, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que les gens qui arrivent ici, ben, puissent arriver et vivre en français. Et donc, que les immigrants qui arrivent ici puissent avoir accès, si c'est pas le cas, accès au français, si c'est pas le cas, mais leur offrir des services pour qu'ils puissent justement travailler et vivre en français à l'intérieur du Québec français. Alors, ça aussi, ça doit faire partie d'une législation qui nous permettrait justement de protéger le français qui est en péril et qui sera toujours en péril à cause de la situation que vous avez très bien décrite et imagée avec la réalité anglophone de l'Amérique du Nord. Puis moi, je vous dis ça, j'ai rien contre les Anglais, j'ai rien contre eux autres. Moi, c'est une langue, moi je la maîtrise moyennement, mais c'est une langue intéressante. J'aime beaucoup aller aux États-Unis, au reste du Canada. Et quand je vais là, ben je parle en anglais. Je veux pas assez me faire servir en français quand je vais dans le reste du Canada ou aux États-Unis. Je respecte leur état de fait. Qu'on fasse la même chose avec ma langue.
La langue, la laïcité, on a mis le doigt sur deux points de clivage assez importants. On a aussi beaucoup parlé d'histoire depuis le début, c'est revenu souvent. L'histoire est un...
Ben, j'adore l'histoire. Je suis pas un historien, mais j'adore l'histoire.
Voilà, c'est... Ouais, un homme de bon goût, parce que l'histoire est quand même quelque chose de fondamental. On a fait une émission super, d'ailleurs, avec Éric Bédard sur l'histoire du Québec.
Lui, c'est un très grand historien. Exactement. Allez. Très intéressant.
L'émission était géniale, et si je m'étais écouté moi, on serait toujours en train d'enregistrer tellement ça pourrait durer des semaines, des heures.
Ah ouais.
C'est formidable. Vous vous en cachez pas, vous l'avez déjà évoqué. Vous, votre projet, votre idéal, c'est l'indépendance.
Oui.
Du Québec. C'est jouable, l'indépendance du Québec?
Si c'est jouable?
Oui, est-ce que c'est faisable? Alors déjà, il y a eu deux référendums, je crois.
Oui.
Puis une assez courte tête à chaque fois, mais qui...
En 80, on l'a perdu quand même, on était loin. Mais en 95, on l'a perdu par 30 000 votes et on s'est aperçu que les représentants du non n'avaient pas respecté les lois fondamentales de la démocratie canadienne et québécoise dans les dépenses, entre autres. Et il y a beaucoup d'éléments qui nous font penser que ce référendum-là, à la limite, était presque volé.
Ah, c'est la première fois que j'entends ça.
Ben oui, il y a beaucoup de livres qui sont écrits là-dessus, le référendum volé. Mais c'est parce qu'il y a eu comme ils ont dépensé énormément le camp du non, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qui était exigé par la loi. Alors, automatiquement, quand tu fais des dépenses aussi importantes que ça, bien, il peut avoir des résultats qui sont influencés par ça. Et c'est pour ça qu'il y en a. Je vous dis pas que je suis nécessairement d'accord avec ça, mais il y a des gens qui le disent.
Tu sais. OK. Si demain le Québec devait devenir indépendant, quand je posais la question, est-ce que c'est jouable, ça serait quoi? Qu'est-ce qui fonctionnerait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Bon, l'autonomie énergétique, je pense que là-dessus, le Québec est assez tranquille. Hydro-Québec qui fournit l'hydroélectricité. Mm-hmm. On voit là à tel point qu'ils viennent de signer un énorme contrat avec New York. Et effectivement, en plus, c'est l'une des deux seules énergies, qui produit le moins
On peut dire que c'est l'énergie verte, ouais.
Voilà, c'est vraiment.
On est chanceux. On est
chanceux. Ressource.
Ouais.
Mais si demain on prend le Québec prend son indépendance, quid de l'indépendance alimentaire,
C'est pas ça la souveraineté là. C'est pas d'être autonome partout. Est-ce que la France est autonome partout? Est-ce que la France est autonome énergétiquement au niveau de l'agriculture? Non. D'être un pays, ça ne demande pas d'être parfait puis de subvenir à tous nos besoins sans faire d'exportation ou d'importation. D'être un pays, il y a trois éléments fondamentaux qui déterminent le pouvoir ou en tout cas les conséquences d'une décision pour le Québec de devenir souverain. Il y a trois choses. Un, est-ce que vous voulez que le gouvernement du Québec soit le seul à percevoir les impôts sur son territoire? Autrement dit, on ne veut pas que le gouvernement fédéral perçoive des impôts, on veut juste que ce soit le Québec. Allez demander ça aux Québécois, ils vont vous répondre. Il y a des sondages dessus, ils disaient à 70%. Que le seul percepteur, ce soit le Québec, moi, ça fait mon affaire. OK. Que le seul gouvernement qui va légiférer sur ton territoire, qui va imposer des lois, qui vont influencer ton quotidien, ça soit le gouvernement du Québec seulement. Ben là, tu demandes aux Québécois, moi, je veux rien contre tout. Et finalement, tu demandes, est-ce que vous seriez intéressé à ce que le gouvernement du Québec soit le seul à parler au nom des Québécois dans nos relations internationales? Ah, ben là, les gens m'ont dit, ben oui, je trouve que ça a de l'allure parce que il y a personne qui connaît mieux les Québécois que le gouvernement québécois. Fait que c'est normal qu'ils parlent au nom des Québécois. Je suis pas fort en maths, mais je pense que c'est une évidence. Alors, est-ce que ces trois conditions-là sont bonnes et seraient à l'avantage du Québec? Moi, je réponds tout de suite oui.
Alors moi, je me fais l'avocat du diable.
Allez-y.
Franchement, j'ai aucun argument pour les deux premiers points, donc je laisse tomber. Le troisième point sur les relations internationales.
Oui.
Ben, on passe d'un pays d'une énorme superficie d'à peu près 60 millions d'habitants, je pense, ça.
Le Canada, 38.
38. Oh, wow. Je confonds toujours.
Ben, je vous vois venir, là.
Vous non, mais c'est tellement. Ben oui, et 8 millions d'habitants.
Vous, c'est pour ça que vous avez fait l'Union européenne, parce que vous vouliez avoir un seul représentant pour rivaliser avec les États-Unis. Quand vous avez fait l'Union européenne, c'était ça. Ben oui, c'était ça.
Toujours. C'était peut-être l'idée, parce que c'est toujours pas le cas.
Ben là, parce que tu voulais avoir juste un intervenant. Vous avez une union douanière au départ et non pas une zone de libre-échange. Pourquoi? Parce que ça vous permettait d'avoir un seul intervenant qui parlait au départ, en 1968, à au nom de 6 pays. Ça vous donnait plus de poids politique face aux États-Unis qui devenaient hégémoniques. Vous avez pris cette décision-là. Ça vous a bien servi. Mais nous, on n'en est pas là. Nous, là, on ne veut pas d'un individu qui pèse 38 millions de personnes, mais qui ne parle pas en notre nom. Nous, on veut une personne qui pèse 8 millions d'habitants, qui parle seulement en notre nom. On est beaucoup mieux servi dans ce temps-là. Parce que figurez-vous, ce que vous avez entendu la semaine passée, là, il y a 2 semaines, vous l'avez entendu live, là, quand ils dénigraient le Québec, les Québécois, là. Ben, dites-vous que ces gens-là, souvent, vont aller représenter le Canada à l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont dire du Québec? Quand ils vont représenter le Québec et le Canada à l'étranger, s'ils ont une si pâle estime du Québec et qu'ils s'amusent à faire du Québec bashing, là, vous n'allez pas me dire que ces gens-là, ils vont aller à l'étranger puis ils ne feront pas du Québec bashing, puis qu'on ne perdra pas des opportunités d'investissement puis de liens de confiance en différents pays puis nous. Moi, j'aime bien mieux avoir quelqu'un qui est collé à ma réalité, qui me représente moi et juste moi et qui va parler en mon nom. Il va peut-être être un peu plus svelte, mais il ne me donnera pas des coups de pognon dans le dos.
Question de Béotien, je comprends bien, j'avais des idées avant et c'est encore plus clair depuis qu'on discute quel pourrait être l'intérêt, les motivations du Québec à prendre son indépendance. Ce que j'aimerais comprendre, c'est quels peuvent être les intérêts et les motivations du Canada de s'opposer à cette indépendance. Parce qu'on parle beaucoup de Québec bashing, mais enfin, à un moment donné, si tu ne l'aimes pas... Comme disait quelqu'un, si tu l'aimes pas, tu la quittes. Mais visiblement, ils ont l'air de vouloir penser que ce serait bien que ça reste dans la famille.
Ah ben oui, mais ils peuvent avoir les volontés qu'ils veulent. Puis,
mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont vraiment, que tout en ayant d'un côté ce côté Québec bashing, première occasion, ils disent non, vous restez là, c'est parce que ça apporte trop d'argent, parce que c'est...
Non, mais écoutez, vous savez, ces gens-là, ils aiment le Canada comme il est actuellement. Et je disais... Ils sont quand même pas fous. Si t'as une partie du Canada qui s'en va écrire son propre pays, tu divises le Canada en deux morceaux bien distincts. Ça va faire un peu comme le Pakistan occidental puis le Pakistan oriental. Ça n'a pas duré bien longtemps, le Bangladesh est arrivé. Bon. Fait qu'à ce moment-là, quand t'as une division très claire géographiquement d'un pays qui est scindé en deux avec une partie d'un côté, une partie de l'autre, ben moi, je vous dirais, tu regardes ça puis ça ressemble au début de la fin un peu. Surtout que quand tu regardes les réalités à travers le Canada, on s'aperçoit que le Canada, il y a des régions qui ne se ressemblent pas. Fait que dans le fond, là, les pères de la Confédération de 1867, puis ça, vous regardez, c'est quoi une confédération? C'est une communion d'États souverains. Là. Ce qui va arriver après la souveraineté du Québec, c'est peut-être qu'on va avoir une confédération d'États souverains. Où est-ce que le Québec va être assis à une table, et au lieu de se chicaner sur des points qui nous différencient, on va s'accorder pour des choses qui nous rassemblent. Ça veut dire que le Québec va être à la table, peut-être avec l'Ontario, peut-être avec l'Ouest, peut-être avec les Maritimes, je sais pas. Mais il pourrait avoir une autre forme d'adhésion politique à ce pays-là qui a été créé de toutes pièces en 1867. C'est pas un mouvement de masse qui a créé le Canada en 1867. Là. Ça s'est fait à l'intérieur d'une salle avec les pères de la Confédération. Je veux dire, c'est pas un mouvement. Les gens vont dire, oh mon Dieu, on va créer le Canada, ça nous ressemble tellement. Mais non. Alors, le Canada, il y a quelqu'un qui disait, puis je vais le répéter, mais je veux pas que vous en parliez à personne. Il y en a qui disaient que le Canada, c'est comme un party plate. Il suffit qu'il y ait un invité qui parte pour que les autres suivent, tu sais. Fait que, j'oserais pas dire ça. Mais, tu sais, moi, là, je vous dis, le Québec, s'il devient souverain, on va garder la même monnaie, on veut garder la même monnaie, puis ils n'auront aucun intérêt à nous enlever notre monnaie si on veut la garder. Ils peuvent même pas faire ça, OK? On s'entend là-dessus. puis avec le reste du Canada, de continuer à avoir un espace économique commun. Faire un peu ce que l'Europe fait, c'est d'avoir des pays qui s'unissent, peut-être pas aussi intégrés qu'en Europe, mais quand même avoir un espace économique commun, une monnaie commune. Et à partir de ce moment-là, ben, on continue à faire nos affaires comme on l'entend, et le Québec devient souverain, devient un État avec tous ses leviers de développement entre ses propres mains à lui. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'anormal pour un pays, pour un peuple normal d'avoir un pays normal? C'est juste ça qu'on veut. Vous savez, tu sais, Roosevelt, en 1941, dans la Charte de l'Atlantique, là, quand ils sont assis puis ils ont écrit la Charte de l'Atlantique, là, avant qu'ils rentrent en guerre, là, il insistait pour dire que les peuples ont droit à leur autodétermination et qu'il fallait un contexte économique international qui permet à chaque peuple, aussi petit soit-il, d'avoir la souveraineté et d'avoir la prospérité de facto aussi possible avec une économie mondialisée ou comme on la connaît aujourd'hui. C'était ça le rêve en arrière de cette intervention-là, la Charte de l'Atlantique, c'est que chaque pays ou chaque peuple pouvait avoir accès à son autodétermination sans avoir une perte de richesse ou une perte économique ou d'être infligé économiquement parce qu'il est trop petit. Non! Puis dans votre introduction, tantôt, vous m'avez dit il faut être autonome. Non, il ne faut pas être autonome pour être un pays. Il faut juste se concentrer sur les choses qu'on est bon, comme Adam Smith nous disait, puis en produire tellement qu'on va en exporter, puis on va acheter avec cette exportation-là ce qu'on n'est pas capable de faire ou très
comme Hydro-Québec.
Et voilà. Et donc, c'est ce que nous, on va faire. On n'est pas pire, on n'est pas meilleur que la France. On est juste bien moins nombreux. C'est un petit peu différent parce qu'à cause de notre accent, entre autres. Mais on a gardé beaucoup de la mère patrie, vous savez.
Oui, je sais bien. Bah, Éric Bédard me l'expliquait en me disant que l'accent québécois est l'accent de France de l'époque.
Ben oui, c'est le patois 17e.
Voilà.
Ben oui, c'était avant votre révolution. Ben oui, on a gardé le patois 17e. On est comme vos ancêtres.
Mais ceci dit, et je lui avais dit aussi, et ça revient très souvent dans l'émission, il y a beaucoup de mots qu'on identifie comme étant du québécois, en tout cas ici, qui sont moins des mots que ma grand-mère parlait en Charente, dans le petit village derrière. Tantôt, par exemple, qui est un mot que j'avais pas entendu depuis 20 ans, mais ma grand-mère disait tantôt, elle parlait d'un chandail, et même des expressions, le fameux tu interrogatif, qui nous perturbe tant. Une prof de français m'a expliqué qu'en fait, le tu interrogatif, c'était d'abord le til, qui était devenu ti, et qui était devenu ici le tu. Et vlatipa qui va pas faire ça, c'est une expression, une tournure de phrase que moi-même, j'employais, que ma grand-mère employait, et que dans le patois charentais, on va dire, qu'on employait régulièrement, et bien, il suffit juste de remplacer le ti, le til, par le tu, et en fait, on a la version québécoise. Donc, effectivement, les similarités, elles sont quand même...
Ben oui.
Tout ça reste en famille. C'est
ben
quoi ouais. les enjeux pour le Québec dans les années qui viennent? Les grands enjeux? Pourquoi il faut se battre? Indépendance mise à part.
Ouais, ben là, on a parlé de la langue, on en a parlé beaucoup. C'est un enjeu considérable. On pourrait parler, puis le Québec, on insiste beaucoup là-dessus, sur la relance verte, la post-pandémie. De faire en sorte que l'économie va se relever. Évidemment, on a connu une certaine, l'ensemble de l'humanité a connu une certaine défaillance économique, et de se relever puis d'en profiter pour accentuer le développement de l'économie verte. Nous, l'avantage qu'on a au Québec, c'est que notre énergie est verte. T'sais, alors que quand on dit, on va utiliser des voitures électriques, pour nous, c'est vert. Parce que l'électricité qui va aller dans la voiture, c'est vert. Tu sais, si tu fais ton électricité avec du pétrole ou autre chose, là, c'est contestable. Mais nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'à la seconde où on fait l'électrification des transports, à la seconde où on utilise davantage l'hydroélectricité, puis là, on commence de plus en plus à utiliser l'éolien, à ce moment-là, et le lithium, on a du lithium ici, on est capable de se développer un créneau d'économie verte et d'arrêter de penser en silo. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent encore ça. On a le choix entre l'économie ou l'environnement. Non! On n'a pas le choix entre l'économie et l'environnement. On fait de l'économie verte, c'est encore bien mieux. L'économie de demain, on la produit et on la prépare aujourd'hui. C'est une économie qui est respectueuse de l'environnement, qui va faire en sorte qu'on atteigne des cibles de restriction de gaz à effet de serre. Et en plus, on va créer des jobs, créer des richesses. Mais c'est là-dessus qu'on doit se lancer. Puis le Québec, nous, je vous dirais pas par rapport à l'Europe ou d'autres pays dans le monde, mais par rapport à l'Amérique du Nord, je vous dirais, puis peut-être vous êtes ici depuis un an, peut-être vous l'avez peut-être constaté qu'on est qu'on a dans notre mentalité plus d'ouverture envers justement une économie verte, la relance verte, l'utilisation de ces technologies-là avant-gardistes. Moi, je pense. Je veux pas dire qu'on est meilleur que les autres. Mais si, le reste du Canada, c'est une économie davantage pétrolière. Puis c'est pas à peu près, là. Tu sais, quand on dit là que l'Alberta a une production élevée, puis c'est du, souvent on appelle ça entre guillemets, quand on dit ça en chambre, les Albertains nous aiment pas, on dit c'est du pétrole sale. Ben, tu sais, il n'y a pas juste l'Alberta qui est une activité pétrolière solide. Il y a tout le secteur, si on l'oublie souvent, le secteur financier canadien qui est rattaché au pétrole. Dans les 25 plus grands intervenants au niveau pétrolier, 5 sont des banques canadiennes. Alors, tout le circuit financier canadien est orienté, ou presque tout, faut pas exagérer, autour du pétrole, l'activité pétrolière de l'Ouest. Alors, on a une mentalité beaucoup plus axée sur le pétrole, puis nous, on essaye au Parlement de faire réaliser ça à nos amis de l'Ouest. Puis on dit même au Québec, tant qu'envoyer 2-3 milliards par année de subventions pétrolières, ben regardez, prenez cet argent-là, vous le donne, prenez cet argent-là, puis tu sais, faites le saut dans l'économie verte. Investissez dans l'économie verte, la place.
Et c'est vraiment important parce que je reviens toujours à l'émission avec Éric Bédard et à son bouquin L'histoire du Québec pour les nuls, c'est-à-dire en gros le bouquin qu'il a écrit pour moi. Il dit à la fin de...
C'est un livre, ces livres-là, tu sais, on est tous des nuls, on apprend toutes sortes d'affaires.
Et à la fin, il parle de 10 fiertés québécoises. Et l'une de ces fiertés québécoises, je crois même que c'est la première, c'est Hydro-Québec. Et quand je l'ai lu au départ, j'ai dit, ah bon, enfin, ça va, c'est une société d'électricité. Je veux dire, moi, je me sens pas spécialement fier d'EDF, quoi. C'est une société d'État, certes. Ouais. C'est chouette, mais enfin, bon, c'est pas une fierté. Et en fait, au bout d'un an, et ça rejoint parfaitement ce que vous venez d'expliquer, je comprends beaucoup mieux, la fierté que représente, Hydro-Québec, parce que ça va au-delà d'un simple État, Hydro-Québec, en fait, c'est un projet politique, déjà d'autonomie, à la base. Mm-hmm. Et puis maintenant, c'est un projet d'économie d'avenir avec l'économie verte, l'exportation. Enfin, c'est une bonne poche. Je comprends beaucoup mieux la fierté que ça engendre.
Quand ils ont décidé de nationaliser l'électricité en 1962, c'est l'idée de René Lévesque. À l'époque, tout ce qu'on entendait aussi, c'était vous serez pas capable. On n'est pas capable, les Québécois, de faire ça. On n'a pas les connaissances suffisantes. Ça, c'est réservé aux Américains, aux gens qui ont l'argent, développement, tu sais, des développements astronomiques comme ça. On joue pas dans ces cours-là, on n'est pas capable. René Lévesque croyait beaucoup aux Québécois, mais disait, on est capable. C'est exactement la même chose que quand on parle de la souveraineté. C'est exactement la même affaire. Le discours qu'on avait en 1962, quand on a commencé à parler de nationalisation de l'électricité, on était nés pour un petit pain, on est des porteurs d'eau, on ne devrait pas toucher à ça, ainsi de suite. On s'est prouvé, on s'est réalisé avec l'hydroélectricité, avec Hydro-Québec. Ça a été une fierté extraordinaire. Mais moi, je vous dis, la souveraineté du Québec, là, c'est exactement la même chose. Exactement. C'est un projet enivrant, c'est un gros projet, mais les gens se disent, on n'est peut-être pas capable. Puis c'est souvent la critique qu'on a quand on parle aux gens. Économiquement, on va-tu être capable? On est comme ça. Au Québec, on a comme été longtemps colonisé, puis on a des relents de ça. On n'a pas tout le temps confiance en nous. Ben, l'hydroélectricité, c'est une façon de nous dire, « Hey, on est hot! On a été capable de faire ça! » Puis, tu sais, les barrages, c'est des grandes réalisations.
Ouais, effectivement, il y a de quoi bomber le torse. Et une fois de plus, ce contrat mirifique qui vient d'être cité, signé avec New York, a de quoi rendre fier. Toute dernière question, parce qu'on arrive au bout de l'émission, c'est quoi maintenant les prochaines étapes pour le Bloc québécois? Si j'ai bien compris, là, vous avez, assis vos positions, c'est-à-dire que vous avez gagné un ou deux députés, je crois, toujours selon le recomptage qui est en cours.
Oui, c'est ça. Là, officiellement, on avait 32, là, on sera à 33, mais il y a recomptage au 33e comté. On ne sait pas si on va le garder ou non. Vous parlez au niveau de la législature?
Les prochaines étapes pour le parti, mais même pour le projet que vous défendez d'indépendance du Québec, ouais, quelle que soit la
moi,
forme.
Je vous dirais, pour la souveraineté, ça se décide à Québec. C'est à Québec que ça va se faire. Alors, il faut que la tenue d'un référendum soit demandée par un gouvernement qui est à l'Assemblée nationale à Québec. Pendant ce temps-là, nous, pendant qu'on attend le grand jour, nous, on défend les intérêts des Québécois. On est un rempart de la protection du Québec contre souvent des lois, des positions, des politiques de Ottawa ou canadiennes qui vont souvent à l'encontre des désirs des Québécois. Alors, pendant qu'on attend ce grand jour-là, le Bloc va à Ottawa défendre les intérêts des Québécois et se faire le rempart de tout ce qui pourrait nous affliger et qui vient du pays qui décide avec 50% de nos impôts et qui font voter à peu près 50% des lois qui régimentent nos vies. Alors, nous, on se tient debout. Comme, vous savez, quand vous avez vu le Québec bashing, il y a juste Yves-François Blanchet qui s'est tenu debout. Hein. Vous avez vu ça, vous en avez parlé tantôt.
Ouais, ouais.
Ça, c'est l'image parfaite de ce que je vais faire à Ottawa. Je vais me tenir debout. Je vais défendre les intérêts du Québec. Contre vents et marées, les Québécois peuvent être certains que je vais là pour une seule raison, les défendre, défendre leurs intérêts, défendre leurs valeurs, puis défendre les besoins qu'ils ont et les combler le plus possible avec ce qu'on envoie à Ottawa et avec les pièces législatives qui vont être votées là. C'est ma seule raison d'être à Ottawa. Puis je peux regarder mon monde dans les yeux, là, puis je fais pas de compromis. Vous me regardez, là, vous me voyez, je fais pas de compromis. OK? Moi, je suis là pour les bonnes raisons. Puis quand je rencontre les gens chez nous, là, ils le savent. Ils savent reconnaître que je suis un battant. C'est depuis 2012 que je suis député. Puis j'ai toujours été là pour les défendre, puis défendre les dossiers de ma région, puis de mon pays. Si je vais continuer à le faire, tant que je vais être vivant.
C'est beau de voir quelqu'un qui aime son pays comme ça. Je trouve que vous avez l'œil qui brille. Ouais, c'est beau. C'est beau.
Ben, merci
beaucoup.
Ben, vous savez, c'est le seul que j'ai. Tu sais, à un moment donné, un des grands Québécois de l'histoire, c'est Pierre Bourgault, tu sais. Puis il disait, il faut protéger notre pays, il faut protéger notre langue parce que c'est notre langue. Puis il y a juste ici où on est chez nous. Fait qu'on n'a pas le choix de le protéger.
Vous en avez qu'un?
Le plus possible, avec tout mon cœur puis toute mon énergie.
Vous en avez qu'un, mais moi, au bout d'un an, je suis en passe d'en avoir deux. J'ai de la chance. Je vous remercie énormément.
Merci à vous.
C'était très agréable. À très bientôt.
On pourra s'en voir éventuellement, là, on n'est pas loin.
Eh bien, avec plaisir. Avec grand plaisir.
Ben oui, vous me laisserez vos... Là, on n'est plus en enregistrement, là.
Si, on est encore en enregistrement, mais vous inquiétez pas, je vous laisserai mes coordonnées quand même, il n'y a pas de souci.
Ah bon, écoutez, je suis désolé pour vos auditeurs.
Il n'y a pas de souci.
Non, mais éventuellement, ça serait bien qu'on continue ça avec un café.
Avec très plaisir, j'adore le café. À très bientôt.
Ça marche.
Au revoir.
Merci beaucoup. Bye bye.
Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bon, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancée très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.